Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment mieux vivre avec soi-même et en société ? Comment surmonter les défis de l'existence ? Comment être heureux ? Et si le bonheur, c'était aussi de savoir dire merci ? Autant de sujets à la frontière de la philosophie, de la méditation, mais aussi des études bibliques que nous allons aborder avec nos deux invités pour leurs livres respectifs. Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie de Catherine Chalier, publiée chez Bayard. Et les cinq portes, trouver le chemin de la spiritualité, publié chez Flammarion, de Fabrice Midal. À vous deux, bonjour.
Bonjour.
Et merci pour votre présence dans ce studio. Alors, quelques mots de présentation avant de vous entendre. Catherine Chalier, vous êtes philosophe, vous êtes professeure émérite, vous étiez catholique et vous vous êtes convertie au judaïsme. Vous avez beaucoup écrit sur les liens entre la philosophie et la pensée hébraïque et vous êtes une spécialiste du philosophe Emmanuel Lévinas. Fabrice Midal, vous êtes philosophe. Vous êtes né dans une famille juive, vous allez vous tourner vers le bouddhisme qui vous conduira à la méditation. Vous êtes le fondateur de l'école occidentale de méditation et vous êtes un auteur à succès. Là, je me réfère à votre avant-dernier livre, Foutez-vous la paix. Et je suis sûre donc que le livre de Catherine Chalier, dont vous connaissez bien l'œuvre, va vous parler. Alors, Catherine Chalier, je me tourne vers vous. Ce livre sur la gratitude, vous l'avez publié en 2020. Et j'avais été intriguée par ce titre, la gratitude au risque de l'asymétrie. Puis il y a eu le Covid, pas de déplacement possible, mais j'avais toujours gardé ce livre sous le coude, comme on dit. Et alors qu'on retrouve maintenant une vie normale, plus de passe sanitaire, plus de masque dans le métro, etc., le mot gratitude et votre livre m'est revenu naturellement à l'esprit en me disant, voilà, il y a eu les soignants, il y a eu la recherche médicale, il y a eu la protection sociale aussi, même si elle est incomplète, dont nous avons tous bénéficié en France. Et pourtant, Catherine Chalier, ce mot gratitude, on ne le prononce plus, on n'y pense plus. Pourquoi ?
Ça, je ne sais pas, mais on l'a prononcé malgré tout pendant la période du Covid. Je me souviens les soirées sur les balcons pour remercier les soignants. Et il y a eu quand même des gestes,
oui.
Des gestes de gratitude par rapport à tous ceux qui continuaient à affronter un certain danger et soignaient les autres. Mais d'une façon plus générale, indépendamment même du Covid, et quand peut-être la vie reprend un cours plus ordinaire, il est vrai que ce mot est souvent oublié, ou bien il est restreint à des situations qui sont des situations où je vais remercier pour un service, ou vais remercier pour une invitation, mais aussi donc montrer que je sais que l'autre a fait quelque chose pour moi, mais très souvent, ce merci-là, il est pris dans une réciprocité ou dans une symétrie. Et en attendant, justement, que l'autre aussi nous rende l'appareil. Et donc, dans le livre pour lequel vous avez la gentillesse de m'inviter, j'ai essayé justement de critiquer cette façon réciproque de penser le merci ou de penser la gratitude et de montrer que lorsqu'on essaye de le penser dans le cadre d'un espace asymétrique, alors ce mot prend une toute autre ampleur, une toute autre générosité. Alors, je m'explique sur le mot asymétrie. L'asymétrie, souvent, lorsqu'on en parle, et particulièrement en politique, ou par exemple en ce moment avec la guerre en Ukraine, donc des forces asymétriques, c'est-à-dire c'est des forces qui sont d'ampleur très différente, et donc c'est très critiqué, et au nom, bien sûr, de l'égalité lorsqu'il s'agit de politique, ou au nom d'établir un équilibre des forces militaires sur le terrain. Alors, c'est pas de cela dont je parle. Je parle de l'asymétrie au sens où si nous voulons véritablement percevoir autrui comme une personne qui nous donne, il ne faut pas justement être prêt à rendre pour oublier juste que nous avons reçu.
Oui, pour gommer, bien sûr. Oui.
Et qui est une façon d'effacer, qui est une façon de gommer. Et donc, nous ne voulons pas être en reste. Nous ne voulons pas recevoir. Et alors, pour en venir peut-être plus directement à votre introduction, je crois que nous sommes dans une société où de plus en plus devient marquant l'idée que nous refusons d'avoir reçu. nous refusons le donner comme si le donner, je ne suis pas en train de dire que tout est bien, mais comme si le donner était une offense à ce que nous considérons comme une valeur fondamentale qui est notre autonomie et qui est donc l'idée que c'est à nous de choisir. Je pense que là, il y a sans doute une perspective qui mérite d'être revue et de voir que l'asymétrie en un seul mot est capable de nous ouvrir sur autre chose dans les rapports avec autrui et en particulier de nous faire percevoir qu'il y a autrui.
Mais l'asymétrie, effectivement, aujourd'hui est perçue comme un rapport inégalitaire dans des sociétés démocratiques où l'égalité, l'égalitarisme, voilà, c'est un peu la loi, si je puis dire. Oui.
Alors, mais que l'égalité soit une valeur sur le plan politique, sur le plan social,
évidemment,
j'en suis complètement d'accord, c'est pas du tout ça que je mets en cause. Mais je dis qu'à vouloir absolument l'égalité, absolument la symétrie, eh bien, nous manquons la rencontre avec l'altérité d'autrui. Et c'est vrai aussi dans les rapports entre les hommes et les femmes. Lorsque nous réclamons l'égalité, eh bien, pour les femmes, et je suis tout à fait partisane de la réclamer, mais il y a aussi une dimension de la symétrie, une dimension de l'altérité que nous ne pouvons pas percevoir si nous sommes simplement pris dans cette logique-là. Et cette réflexion permet aussi d'ouvrir sur la gratitude, le deuxième mot de ce livre-là, une perspective qui est une perspective tout autre que avoir reçu et aussitôt donné à son tour pour effacer le don.
Le contre-don, c'est ce que vous appelez le contre-don, c'est cela, hein, oui. Catherine Chalier, oui.
Au fond, la question qui m'intéresse beaucoup dans ce livre, qui est liée à ce que je viens de dire, c'est aussi comment, malgré la souffrance qui est si souvent présente dans les vies, quelles que soient les modalités de cette souffrance, et parfois elle est très très grande, comment nous pouvons sauvegarder cet espace d'où vient aussi la possibilité de dire merci. Et donc j'ai essayé de l'enraciner dans une lecture de certains textes bibliques.
Oui, sur lesquels nous allons effectivement revenir.
Dans lequel il y a, dans le texte biblique, dans le texte de la Genèse, il y a un oui originaire à la vie, un oui originaire à la vie. Ça ne veut pas dire que le mal qui se fait et qui est immense et qui est très grand et qui est prégnant ne contamine pas les hommes et ne les abîme pas, mais mon présupposé fondamental, c'est que ce oui continue de nous habiter.
C'est-à-dire qu'une société qui ne saurait plus dire merci, c'est une société vraiment malade ?
Je crois, oui, je crois.
Fabrice Midal, quelques mots sur propos, oui.
C'est très intéressant de oui. réussir à soutenir le fait qu'on reçoit. C'est abyssal, le fait qu'être humain, c'est recevoir. Et moi, si j'avais une question, c'est comment vous situez par rapport à l'essai sur le don de Mauss ?
Justement, dans le livre, je l'évoque et je l'analyse. Et ça, c'est le prototype même de la volonté de ne pas recevoir, parce que c'est toujours une surenchère dans le don pour essayer de donner plus que ce qu'on a reçu. Et à ce moment-là, l'autre essaie de donner encore plus. Et dans l'essai sur le don de Mauss, qui est un texte très, très célèbre, oui. Ça finit en catastrophe, finalement.
Dans votre livre, Fabrice Midal, sur lequel, bien sûr, nous allons explorer tout à l'heure, il y a un moment, je l'ai noté, je me suis dit, tiens, ça va parler à Catherine Chalier, sur le merci. Il y a un moment où la question du merci est évoquée. Ah, je crois que c'est ça, voilà. C'est quand vous allez chez votre grand-mère, qu'elle vous fait un délicieux strudel, parce que si j'ai bien compris, vous êtes assez gourmand. Et, et à la fin, vous dites, voilà, non seulement vous étiez ému parce que vous pensiez aussi, et d'ailleurs c'est évoqué dans votre livre, Catherine Chalier, aux générations précédentes qui ont permis précisément de transmettre ce strudel. Et le merci, c'est aussi aux générations précédentes, hein, Catherine
Chalier. C'est clair, parce qu'on reçoit quelque chose qui excède absolument tout.
Absolument,
et donc, qu'est-ce que ça veut dire de sentir qu'on est redevable et de faire la paix avec ça?
Absolument.
C'est ça la symétrie.
Et alors, donc, ce strudel, vous avez quasiment les larmes aux yeux en le mangeant, non seulement parce que c'est très bon, il est très bon,
ce strudel. C'est le meilleur du monde, celui
de votre grand-mère, évidemment.
Je n'ai jamais mangé un aussi bon depuis.
Évidemment. Mais aussi, voilà, vous avez ce mot merci qui vous vient, cette gratitude, allez, voilà, on va le dire, cette gratitude. Mais là, il n'y a pas une question de symétrie ou d'asymétrie, c'est cette gratitude tout court.
C'est un merci pur, c'est un merci qui dit, qui reconnaît juste qu'on reçoit et que ce don excède ce qu'on mérite. C'est ça l'idée, c'est que être un être humain, c'est que des gens vous ont donné des choses, vous ont permis d'être, et qu'on n'est pas dans la transaction.
Catherine Jallier, oui, vous évoquez hein, ces générations à qui l'on doit.
Les générations à qui l'on doit, mais même d'une façon plus générale, donc j'aime bien ce mot que vous venez d'employer, on n'est pas dans la transaction, c'est-à-dire on n'est pas dans « je mérite, donc je dois recevoir », ou « je ne mérite pas, donc je ne dois pas recevoir ». Alors ça, il y a une façon très fréquente de lire les textes religieux qui sont de cet ordre. C'est-à-dire qu'on s'attend, puisqu'on s'est bien conduit, à recevoir.
Dieu vous le donnera au centuple.
Ça, Dieu vous... Quand quelqu'un dit ça à quelqu'un d'autre, par exemple, si vous me donnez quelque chose et que je vous réponds, Madame, Dieu vous le rendra au centuple, ça veut dire que je me dégage de mon merci.
Exactement, hein. Et puis que c'est un Dieu économique
et
aussi.
Et que c'est un Dieu économique. Et donc, j'essaye de frayer quand même la voie d'une lecture des textes qui n'est pas en rapport avec un Dieu économique qui a une table de compte et qui dit que celui-là, il mérite, celui-là, il ne mérite pas. Et surtout, en prenant des exemples tragiques qui sont dans l'histoire et que d'ailleurs aussi chacun d'entre nous peut connaître, on connaît tant de gens qui mériteraient d'avoir une vie heureuse et qui ne l'ont pas. Et donc, ma question dans ce livre, ma question, qui est une question qui m'habite profondément, c'est comment, malgré la souffrance, en dépit de la souffrance, il y a une possibilité de continuer d'être attentif à ce oui inaugural de la création. Et je cite à un moment donné dans le livre des textes qui ont été écrits dans des conditions extrêmement tragiques de la Shoah, où la personne n'attend plus rien pour elle, mais malgré tout, elle essaye de donner un témoignage. Et ce simple fait de donner un témoignage, de continuer de s'adresser à quelqu'un par-delà les générations, à quelqu'un qu'on ne connaîtra jamais, c'est aussi une façon de ne pas être complètement acculé à soi-même, enfermé à soi-même, et c'est aussi une forme de gratitude.
Et d'ailleurs, vous évoquez également dans votre livre, Catherine Jallier, cette femme, Eva Ginsburg, c'est ça ?
Oui, peut-être.
Qui est à la Colima, dans la Colima, donc oui, oui. Voilà. Et qui dit à un moment donné, le plus dur, c'est de ne pas pouvoir donner.
Oui, oui.
C'est l'impossibilité de donner, quand on est au goulag, hein, par exemple, ou effectivement dans les camps.
Mais en fait, elle donnait aussi parce que, ne serait-ce que de réciter un poème par cœur. Oui. Donc, je ne cite peut-être pas cet exemple, mais elle dans ses écrits, Evgenia Ginsburg, elle récite des textes de poètes par cœur. Mais il reste encore quelque chose à donner. Et c'est quand le train l'emmène vers la Colima, elle récite des poèmes par cœur, et il y a le garde même qui arrive et qui est « Comment vous avez un livre, vous c'est interdit ?» Cette dame, elle lit sans livre.
» Fabrice Midal.
Ce qui est essentiel, c'est comment, dans ce don qu'on reçoit, au fond, on est accueilli dans son être d'une manière inconditionnelle. Disons, moi, c'est ça puisque ce qui m'intéresse, c'est essayer de repenser la spiritualité. Au fond, la spiritualité, c'est ce geste-là d'être aimé inconditionnellement. Et au fond, c'est ça, à mon avis, dont il est question. On se sent aimé inconditionnellement, aimé sans raison. Et c'est ça pourquoi on dit merci. On dit merci d'être accueilli, on dit merci d'être reconnu, on dit merci d'être aimé. Et aimé, on ne l'est jamais. Si on est aimé pour ceci ou pour cela, c'est qu'on n'est pas aimé.
Oui,
on n'est pas dans l'ordre de l'amour, au fond. Est-ce qu'on peut sauvegarder l'ordre de l'amour qui n'est pas l'ordre économique ? Et au fond, c'est ça aujourd'hui qu'on a peut-être du mal à penser dans ce qu'est aujourd'hui ce que j'appelle le capitalisme psychique, c'est-à-dire la manière de tout gérer pour potentialiser au maximum. Cette idée d'une forme de gratuité qui serait plus fondamentale que cet ordre économique, qui ne serait pas un truc à côté, mais ce sans quoi personne ne peut vivre. On voit bien que l'enfant, s'il n'est pas accueilli et aimé sans raison, ne peut pas vivre. On peut penser à tous les travaux sur la théorie de l'attachement, Bowlby et tout ça. On voit bien qu'il y a cette asymétrie fondamentale qui est constitutive de l'existence humaine. Et c'est ça qu'on a aujourd'hui du mal à penser dans la manière dont tout est ramené à la gestion de soi-même pour en potentialiser le rendement maximum, que notre santé doit être capitalisée, notre bonheur capitalisé. Et là, il y a quelque chose comme une attaque fondamentale dont nous payons tous le prix. Et donc, on voit comment c'est les questions qu'on aborde là, ces questions spirituelles difficiles, au fond, ont des échos au plus quotidien de nos vies aujourd'hui.
Sur cette asymétrie, Catherine Chalier, à un moment donné de votre livre, vous évoquez ces personnes qui ne supportent pas le bonheur de l'autre, parce que la vie est asymétrique de toute façon, hein. Il y a les pauvres, les riches, les jeunes, les vieux, enfin toute notre existence est évidemment basée sur l'asymétrie. Et bien, concernant justement le bonheur de l'autre, il y a des personnes qui, voilà, malheureusement, n'arrivent pas à être heureuses pour l'autre quand soi-même, on traverse des moments difficiles.
Oui, ça commence très tôt dans la Bible.
On va en parler avec Abel et Caïn.
C'est l'image de Abel et Caïn, c'est-à-dire, pour une raison inconnue de nous, l'offrande d'Abel est acceptée, celle de Caïn ne l'est pas. Et il ne voit qu'une chose, il voit que son offrande n'est pas acceptée. Il en vient ensuite, donc, comme vous savez, à tuer son frère. C'est-à-dire, donc, c'est l'idée d'être obnubilé par ce que l'autre a, c'est-à-dire on essaie de se voir dans le miroir de l'autre. Et je pense que quand on essaie justement de se détacher de ce miroir-là, de cesser d'être dans le vouloir que d'avoir exactement la même chose que l'autre, après tout, peut-être qu'il aurait pu trouver son propre chemin. Mais tant qu'il ne voit que son offrande à Abel a été acceptée et pas la mienne, il ne peut que sombrer dans un désespoir qui va finir en drame. Et donc, l'idée, c'est aussi de nous apprendre à regarder ailleurs. On ne lui demande même pas de se réjouir pour son frère, on lui demande simplement de regarder ailleurs, de regarder autrement. Et donc, je pense que ça c'est une question extrêmement importante et qui, si on réfléchit une anthropologie sur la base des textes bibliques, on voit bien qu'elle nous guide vers une anthropologie où nous cesserions de vouloir être dans le mimétisme sans cesse avec notre prochain. Alors, bien sûr, je comprends bien que ce que je viens de dire, si on le prend à un niveau politique, ça peut poser des questions difficiles parce qu'alors on pourrait dire: ah ben alors, les pauvres, pourquoi ils regardent les riches? Et bon, alors je ne suis pas en train de tenir un discours comme ça, réactionnaire sur ce point. Je suis en train d'essayer de réfléchir à ce qui nous meut psychiquement. À nos passions tristes, comme dit Spinoza. Et surtout à ce qui peut nous délivrer de cette hantise de ne pas avoir ce que l'autre a et de nous ouvrir pour des combats qui soient des combats créateurs et qui soient des combats dans lesquels nous pouvons aussi nous transformer. Et je voudrais juste peut-être, si j'ai le temps, ajouter juste un point. Dans la tradition juive, la prière du matin commence par cette phrase de remerciement à Dieu, mais comme ça, ce mot n'est même pas prononcé, parce que il y a en nous une part de nous-mêmes qui est, dit le texte, notre âme est pure. Ça ne veut pas dire tout dire que c'est une âme comme ça, éthérée. Ça veut dire qu'il y a en nous, il y a toujours en nous une part de nous qui est indemne de la souffrance, du mal fait, du mal subi. Et cette part-là, il faut continuer à la faire fructifier et nous remercions de cette part-là. Ça, c'est le merci fondamental. Parce que c'est sur cette base-là, cette idée-là, que nous pouvons ensuite faire un chemin ou un autre.
Fabrice Midal, les passions tristes, dans votre nouveau livre « Les cinq portes trouvent le chemin de la spiritualité », bah, vous en parlez peu, mais enfin, vous les combattez quand même, hein, la jalousie, la comparaison.
Je sais pas, j'y crois pas beaucoup, moi. Je suis pas du tout spinoziste et j'aime pas du tout cette notion des passions tristes. Et je crois pas qu'il y ait des passions tristes et des passions... Je crois pas dans cette opposition. Je crois qu'il y a des chagrins qui peuvent être féconds et des chagrins qui sont pas féconds. Je crois qu'il y a des joies justes et des joies fausses. Je crois que c'est cette distinction entre... me semble pas juste du tout. Je crois que dans la vie... ce qui m'importe, c'est qu'est-ce qui nous pousse en avant de manière féconde. Et il y a des chagrins qui peuvent être légitimes. Et il y a des, comme je dis, il y a des joies, il y a des gens qui se réjouissent pour des choses complètement absurdes et qui ne nous grandissent pas.
Mais en tous les cas, votre dernier livre, Fabrice Midal, Les cinq portes, trouve le chemin de la spiritualité, c'est toujours cet appel à la libération.
À retrouver le désir profond qui nous habite. Et qu'on ne reconnaît pas, en raison souvent des normes, de notre éducation. On s'en veut au fond de ce qui pourtant signe au plus profond de nous ce qui nous appelle, ce qu'on désire. Et j'ai essayé dans les cinq portes d'essayer de reconnaître cinq désirs fondamentaux. Le désir de voir clair.
D'entrer en relation, c'est le premier.
Peu importe dans quel ordre on les prend, parce que c'est circulaire, disons. Il y a le désir d'entrer en relation, d'être en lien, de créer du lien, de sentir qu'on est touché, qu'on touche et qu'on est touché, que j'appelle la porte rouge. Il y a le fait de voir clair, le désir que les choses soient vues, que j'appelle la porte bleue, le désir d'être en paix, qu'on ne nous ennuie pas, qu'on touche un sens de paix, que j'appelle la porte blanche, le désir d'agir, sentir qu'en agissant, on se sent être plus profondément, le fait de faire, qui est la porte verte, et la porte de l'accomplissement, de la plénitude, que j'appelle la porte jaune. Et l'idée, c'est de reconnaître, c'est d'inviter le lecteur à reconnaître comment ces cinq modalités désir constituent l'existence, et que souvent, il y en a un qui signe notre existence plus profondément et qu'il est important de savoir le reconnaître pour sentir par où on vibre. Et donc, au lieu d'imaginer que l'accomplissement humain ou la spiritualité, c'est au fond le fait de ne plus être mu par cette tension et qu'au fond, il faudrait être calme, zen, détendu, qu'au fond, être un être humain, c'est d'être pris par ça. Mais par exemple, si votre désir profond, c'est d'agir, ben souvent, les gens ont l'impression que ça ne sert à rien, ce n'est pas spirituel d'agir. Et donc, il y a un déni du fait d'agir. Et c'est marrant, notre société qui valorise beaucoup l'action a du mal à voir que l'action, en tant qu'on fait être, qu'on se donne, peut être une occasion
de spiritualité
très profonde. Mais voilà, si vous êtes porte blanche, souvent, les gens ne reconnaissent pas qu'ils ont ce désir de paix et de calme parce qu'on leur a reproché depuis qu'ils sont enfants d'être un peu perdus, d'être un peu dans la lune. Et donc, souvent, on se méconnaît. Et cette méconnaissance est, à mon avis, une des grandes sources de souffrance pour chacun d'entre nous.
Parce que vous êtes passé par là, Fabrice Midal. Enfin, en tous les cas, si je lis votre introduction, vous êtes cet adolescent sur un banc, vous n'êtes pas heureux, vous êtes tiraillé. Et puis, à un moment donné, vous sentez, il y a une forme de...
J'essaie de montrer que la dimension spirituelle, pour reprendre ce qu'on disait avant, oui, elle est comme un don qu'on ne mérite pas. Et moi, je raconte une expérience toute simple pour essayer de montrer que la spiritualité, c'est juste le sentiment où on sent qu'on est enfin soi-même, qu'on est en vie, sans raison. Et je raconte juste une anecdote toute bête. Voilà, j'étais adolescent, je ne me sentais pas très heureux, enfin, rien de grave. Et puis, je m'assois sur un banc. Mes copains marchent le long du lac et d'un seul coup, je rentre dans un hors-temps, comme si le temps s'espaçait, comme je chantais un sentiment de complétude, quelque chose comme une expérience profonde. Et j'essaie de montrer qu'on a tous vécu ces expériences-là et qu'elles sont tous ancrées dans quelque chose de ce désir profond qu'on a perdu et qu'on a oublié. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de montrer que l'expérience spirituelle, elle est très ordinaire. Mmh. Et qu'au fond, elle est tellement ordinaire qu'on ne la voit pas.
Qu'elle passe inaperçue, en fait.
Et moi, j'aime beaucoup Laurent de la Résurrection.
Ah ben voilà, j'allais vous poser la question justement. Ce Laurent et le bonheur n'est pas dans le pré, mais c'est dans l'omelette.
Dans l'omelette, parce que Laurent de la Résurrection, qui est une des grandes figures spirituelles du XVIIe siècle, voilà, il a vécu une expérience spirituelle quand il était jeune, et puis après, il a essayé de devenir ermite, mais il s'est beaucoup ennuyé. Après, il est devenu, il a travaillé pour un homme, il trouvait ça ennuyeux, donc il est devenu, il est rentré dans un monastère comme frère convers, c'est-à-dire s'occuper de la cuisine. Et il raconte comment, en faisant son omelette, il rencontrait Dieu, et que c'était la chose qui le rendait le plus heureux. Il n'est pas très connu en France, mais dans les pays anglo-saxons, Laurent de la Résurrection est vraiment une sorte de référence. Tout le monde allait voir cet homme.
Il disait, mais comment ça se fait-il ? Il était chez les Carmes à Paris, c'est ça ?
C'est ça. Tout le monde disait, mais comment se fait-il qu'il est aussi heureux ? Même l'évêque de Paris allait le voir. Il disait, mais comment se fait-il que vous êtes aussi heureux ? Il dit, ah, mais ne vous perdez pas dans des trucs trop compliqués. Juste le bonheur de faire quelque chose d'aussi simple qu'une omelette, c'est ça, c'est là comme ça que je rencontre Dieu. Donc je trouvais ça intéressant de... Ce déplacement par rapport à, dès qu'on parle de spiritualité, on a l'impression que ça ne nous concerne pas, que c'est pas lié
saints.
À nos vies, voilà. Et au fond, que c'est très ordinaire. Et qu'au fond, ça a à voir avec être qui on est. Et je trouve que, contrairement à ce qu'on raconte, nous sommes dans une société où c'est très difficile d'être qui on est, qu'on est une société très, très, très normative, très écrasante. Et du reste, le retour qui m'a beaucoup surpris, enfin, je me doutais, mais quand même, ça m'a surpris à l'application de mon livre, c'est quand les gens découvrent leurs portes, le choc qu'ils ont. Vous voyez, comme je racontais, quelqu'un me dit, voilà, moi, quand j'étais enfant, mes parents m'ont emmené voir un psychiatre parce qu'ils pensaient que j'étais peut-être autiste. J'étais souvent dans la lune. Et en lisant mon livre, j'ai juste découvert que j'étais porte blanche, que j'ai besoin, moi, de cette ouverture et de ce calme. Mais jamais j'ai pu me réconcilier avec ça. Et ce qui se passe, parce que c'est dynamique. Donc, le désir est dynamique. Donc, si vous êtes porte blanche, le désir que vous avez de paix et de calme peut vous conduire à être un peu perdu. Donc peut-être chez vous, c'est un peu le bordel, vous rangez pas trop, parce que vous aimez pas que les choses soient trop précises, vous aimez pas trop choisir, parce que ça entrave l'ouverture première. Et donc il y a quelque chose là comme une sorte de mouvement inhérent qui vous porte et qui n'est pas reconnu. Si vous êtes porte bleue, votre désir de voir clair se confronte au fait que les choses ne sont pas toujours claires, donc vous pouvez être en colère. Donc vous allez prendre la colère, par exemple, comme quelque chose de négatif. Mais la colère est le visage de ce désir ardent que vous avez de voir clair. Et en reconnaissant ce désir de voir clair, vous allez comprendre que votre colère n'est pas un problème. Elle vient de ce désir de voir clair qu'il faut reconnaître plutôt que de lutter juste contre la colère. Et si vous êtes au contraire porte rouge, que votre désir c'est d'entrer en relation, bah, peut-être qu'à force d'entrer en relation, vous vous perdez, vous papillonnez un peu, vous pouvez avoir le syndrome de Don Juan. Enfin, il y a plein de formes différentes où on se perd parce qu'on entre en relation, mais en étant prisonnier du fait d'être touché, de sentir... toucher et être touché, on voit peut-être plus qu'est-ce qu'on voulait vraiment. Donc chaque désir se confronte au réel qui fait que vous êtes dans quelque chose qu'il faut transcender.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Fabrice Midal pour son livre « Les cinq portes, trouve le chemin de la spiritualité » et Catherine Chalier « Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie ». Alors précisément, Fabrice Midal, votre livre finalement trace les voies d'un bonheur dans finalement un monde très asymétrique. Là, je reprends l'idée de
oui,
Catherine Chalier.
Oui, c'est-à-dire que ma grande idée, c'est qu'on imagine le bonheur comme un état... calme, zen, qui dépendrait des situations extérieures dans lesquelles on ne serait pas bouleversé. Et je crois qu'au contraire, ce qui rend heureux, c'est d'être mu, d'être bouleversé, d'être en adéquation avec son désir profond. Et c'est mon côté un peu marqué par Platon, qui montrait que la philosophie naît d'être frappé par Eros, frappé par le fait qu'on sente qu'il y a quelque chose qui nous fait défaut, qui nous pousse en avant. Et je crois que c'est vraiment important qu'on s'égare en voulant ne pas être confronté par le réel, par l'altérité, et que, au contraire, rentrer dans ce mouvement... Donc on est à la fois la spiritualité, c'est être reconnu, être réconcilié, être qui on est, mais être pris par un travail par rapport à ce qu'on veut et qu'on a toujours à travailler pour le faire advenir. Ouais, c'est ça que je voudrais sauvegarder cette tension inhérente au cœur de l'existence. Et donc, qu'il y a toujours du... On ne peut pas enlever le négatif. On ne sera pas heureux quand il n'y aura plus de négatif. On est heureux quand il y a une manière de faire avec le négatif qui devient l'occasion que quelque chose se donne à vivre. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas vous relier... Et aujourd'hui, on voit le négatif comme problématique. Mais s'il n'y a plus de négatif... Il y a quelque chose d'unilatéral qui est peut-être pire. Et c'est ça qui me semble difficile aujourd'hui.
Oui, aujourd'hui, c'est beaucoup risque zéro. Hein.
C'est ça.
C'est notre société.
C'est ça. La sécurité totale.
Totale.
C'est pas la vie.
C'est pas la vie. Catherine Chalier.
Oui, je dirais d'accord pour le négatif, mais malgré tout, je penserais à ce que vous dites, le fait qu'il y a le mal et non pas le négatif. Le mal subi. En particulier le mal subi par autrui, et qui nous appelle, qui nous demande, et qui continue justement de ne pas nous permettre de nous tranquilliser d'une façon ou d'une
C'est
autre.
Ça,
je crois. Et puis, par rapport à ce que vous avez dit, la question du bonheur, je ne l'aborde pas beaucoup, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Je reviendrai plutôt sur le mot que vous avez employé au début, en disant qu'il y a des joies vraies et des joies fausses. Et au fond, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, une joie fausse.
La joie fausse, par exemple, c'est la joie fabriquée industriellement par le divertissement.
Oui, mais alors, ce n'est pas une joie.
Oui,
des fausses joies, mais ils sont mis très en avant.
Qui sont mis très en avant aujourd'hui et que les gens, imaginent, prennent pour de la joie.
Je ne suis pas sûre qu'ils le prennent parce qu'ils sont très vite déçus,
le divertissement totalitaire aujourd'hui disparaîtrait.
La joie, c'est un mot très très beau, mais je pense que justement,
aussi,
ça ne peut pas être ce que les publicitaires nous disent, parce que la joie ne peut que nous surprendre.
C'est clair.
Une joie préparée n'est pas une joie. Elle nous surprend, elle est toujours en excès. Et précisément, elle vient toucher en nous ce qui veut vivre. Donc, les programmes pour nous rendre joyeux sont évidemment, je suis d'accord avec vous sur ce point, sans objet. Mais je crois que...
La joie véritable, on pourrait dire. Il y a la joie véritable et il y a des joies qui sont inauthentiques. Mais il faudrait à ce moment-là... Et donc, on pourrait dire qu'il y a des tristesses qui sont authentiques. Et qui grandissent et qui sont,
oui,
et qui
ça,
sont
ça,
très
oui.
belles. Et ça, à ce moment-là, ça devient vraiment... Il y a des tristesses qui plombent, mais il y a des tristesses saines et belles. Celles, par exemple, qu'on peut ressentir en écoutant Schubert.
Schubert, bon. Eh bien, écoutez, on vous fera écouter Schubert,
ouais.
Fabrice Midal.
Il y a des tristesses qui réconcilient.
Concernant cette fausse joie, effectivement, quand vous parlez, ça c'est dans le premier chapitre, « Pourquoi tu ne t'habites pas ?» cette existence-là, donc une existence métro, boulot, dodo, etc., te semble une chose tiède, puisque vous vous adressez au lecteur, mécanisée, soumise aux seules contingences matérielles, travailler, consommer, faire semblant de rire et de s'amuser, et puis recommencer. Et les jours s'accumulent, tu avances certes comme un bon petit soldat bien dressé, mais tu as perdu l'énergie.
Parce que l'énergie, l'allant, elle vient avec l'effraction du désir qui vient que quelque chose nous fait défaut et que ce qui fait défaut, le reconnaître, c'est ça, paradoxalement, qu'est la joie et le bonheur. C'est sentir qu'on est appelé à quelque chose, qu'on est appelé... Voilà, alors après, je prends la forme des cinq portes, mais on est appelé à entrer davantage en relation, vouloir voir clair plus profondément, sentir qu'il y a quelque chose qui nous appelle, et au lieu de s'en vouloir ou trouver qu'il y a quelque chose qui est comme un défaut, sentir que c'est une chance que quelque chose nous appelle, nous provoque, nous demande quelque chose.
Cette réflexion que vous menez, Fabrice Midal, depuis des années, donc la méditation, le bouddhisme, on peut supposer la Bible, la psychanalyse, on peut le supposer,
oui.
C'est un mix, est-ce que c'est un aboutissement aujourd'hui de toutes ces disciplines ?
Je suis forcément nourri à de nombreuses sources pour essayer de repenser par où l'être humain peut sauvegarder quelque chose de son humanité. Donc c'est sûr que dans ce livre, il y a tout un travail autour d'une réflexion philosophique pour essayer de repenser cet appel, cette dimension fondamentale du désir, de l'allant, d'une forme d'enthousiasme qu'on n'identifie plus trop aujourd'hui à ce qui nous comble et cette réconciliation, au fond, avec le fait qu'on n'est pas des êtres autonomes fermés sur eux-mêmes, mais que quelque chose nous travaille en permanence. Donc c'est ça que j'essaye de penser, parce que je crois que c'est ça que notre temps appelle. Disons, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'essayer de voir par où quelque chose est possible dans notre temps.
Et de faire du bien.
Oui, par rapport à ce qui est fermé, ce que j'appelais aujourd'hui le capitalisme psychique. C'est-à-dire que, par exemple, moi qui m'intéressais à la méditation, aujourd'hui, la méditation, c'est plus qu'une technique de gestion du stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc, quelque chose est perdu de cette rencontre avec un inconnu. Et la rencontre avec quelque chose qui est inconnu, qui est autre, qui nous dépasse. Et au fond, on est toujours... On est soi en rencontrant quelque chose qui nous dépasse. On n'est pas soi en étant enfermé avec soi-même. Et donc, c'est ça, au fond, ouvrir la porte. On est soi en ouvrant la porte, c'est-à-dire en s'ouvrant à quelque chose de plus grand que soi, autre que soi. Mais c'est très concret, par exemple, vous avez envie de voir clair, vous avez envie de comprendre. Ben, comprendre, ça veut dire que vous cherchez, que vous êtes insatisfait, que vous trouvez que les choses manquent de clarté et que vous êtes pris par une forme de tension, même de lutte, et qu'il y a une lutte qui est saine, qu'il y a une lutte amoureuse, qu'il y a une lutte heureuse pour que les choses soient vues plus clairement.
Ce qui m'étonnait dans votre livre, Fabrice Midal, c'est ce passage sur les neurosciences, précisément, quand les neurosciences, finalement, se mêlent de la spiritualité. En disant, voilà, très clairement, ben, les zones du cerveau, elles sont effectivement, elles sont mises en action lorsqu'il y a une expérience spirituelle.
Oui, c'est intéressant de voir...
Est-ce que c'est pas un peu dangereux, ça, non ?
C'est intéressant de voir que les neurosciences font beaucoup de depuis, disons, une dizaine d'années, les neurosciences sont beaucoup moins scientistes qu'elles l'étaient. Et un dialogue fécond, je trouve, peut s'ouvrir avec ce qu'ils découvrent. Et pose des questions. Donc ça m'intéressait dans le livre de faire tout un chapitre de dialogue avec une neuroscientifique pour essayer de montrer comment il repère dans le cerveau une forme d'altérité au cœur de l'existence. Je trouvais ça intéressant, même si en réalité on n'est qu'au balbutiement de la compréhension du cerveau humain. Donc tout ça, c'est passionnant qu'on repère dans le cerveau voilà, cette énigme que j'essaye de repérer par ailleurs. Donc, j'en parle d'un point de vue poétique, j'en parle d'un point de vue philosophique, mais j'essaye de voir aussi d'un point de vue neuroscientifique ce qu'on en dit aujourd'hui.
Catherine Chalier, pour revenir à votre livre « Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie », quel message voulez-vous véritablement envoyer à notre société à travers ce questionnement justement sur la gratitude qui est difficile aujourd'hui à exprimer ?
Je ne sais pas si je vais envoyer un message, mais il me semble que si nous oublions la gratitude, nous allons nous enfermer en nous-mêmes d'une façon ou d'une autre. Parce que la gratitude, c'est quand même ce qui nous tient ouverts aux autres, à la vie. Des gens, par exemple, qui ne sont pas du tout croyants, remercient quand quelque chose leur arrive, qui les bouleverse dans un sens qu'ils jugent vraiment très positif. Et donc, c'est une adresse à, une ouverture à. Et par rapport à ce que disait Fabrice, juste, il y a un point qui me gêne un tout petit peu, si vous voulez, c'est cette idée que du sujet qui est déjà en nous-mêmes. Mais moi, je crois que nous sommes ouverts à, et nous, c'est aussi la surprise de ce qui advient à nous et de notre façon de répondre qui nous fait grandir. Je ne crois pas que le sujet préexiste à cette réponse que nous donnons. C'est aussi cette surprise devant... la responsabilité que nous avons, qui peut être rude, qui peut nous faire mal, mais qui nous révèle aussi en nous-mêmes une dimension de nous-mêmes qui est une unicité. Comment nous sommes uniques à pouvoir répondre ? Et cette unicité, c'est pas forcément le sujet qu'il cherche en bonheur.
En tous les cas, ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, et j'ai trouvé que ça faisait tout à fait un lien avec vos deux livres, c'était votre passage sur l'humilité, Fabrice Midal. Parce qu'effectivement, la gratitude et l'humilité sont quand même liées. Hein, si on n'arrive pas à être dans la gratitude...
Ce qui m'importe le plus...
Dans ce passage sur l'humilité, vous rappelez l'étymologie du mot humilité,
la terre.
Qui vient du humus, la terre. Ça, c'est extrêmement intéressant.
Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est... qu'on arrête de s'en vouloir, de ne pas être parfait comme un robot. Que quand je parle aux gens, je suis frappé de voir qu'au fond, on s'en veut de pas toujours, des fois, d'échouer, d'être vulnérable, d'être touché. Et que c'est très profond, ce qui faisait déjà qu'il m'avait engagé à écrire « Foutez-vous la paix », au lieu d'essayer d'être dans cette surperformance. Et donc, la spiritualité, c'est ça, c'est est-ce que je peux entrer dans une forme de paix avec le fait que je suis juste humain, que je suis vulnérable que... Et les cinq portes, c'est ça, c'est je suis appelé à ouvrir. Je me découvre en ouvrant la porte et pas en étant enfermé en moi-même, dans cette potentialisation de moi-même pour moi-même qui tourne à vide. Donc l'humilité, c'est de pouvoir assumer... qu'on est juste des êtres humains et que on est beaucoup plus heureux en étant humain qu'en passant sa vie à essayer d'être comme un robot. Mais on voit bien aujourd'hui que c'est pas du tout évident, puisque on voit que les nouvelles maladies psychiques, comme le burn-out par exemple, sont vraiment des nouvelles maladies qui viennent qu'on se potentialise soi-même, qu'on ne s'écoute plus, qu'on ne se rencontre plus. On veut tellement être performant qu'on finit par se mettre en danger. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aider chacun à revenir à ce qui nous habite au plus profond de nous. Et le désir qui est en nous, nous le rencontrons toujours avec surprise. Il est toujours autre que ce qu'on croyait. Mais le rencontrer, c'est une réconciliation fondamentale, extraordinaire.
Catherine Chalier, il y a une phrase qui m'a frappée dans votre livre. C'est celle de Hannah Arendt, qui écrit que l'homme moderne a fini en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence. Cela veut dire quoi ?
Ça rejoint ce que nous disions tout à l'heure, ce désir très profond de choisir à partir de soi, d'un soi qui est d'ailleurs souvent fantasmatique, comme disait Fabrique, de choisir à partir de soi et de ne pas pouvoir... dire merci à ce qui nous précède. Et quand Hannah Arendt disait ça, c'était déjà il y a quand même pas mal d'années, ça n'a fait que grandir. On veut pouvoir être la source d'où provient tout ce que nous vivons, y compris nos propres enfants, choisir le sexe de notre enfant, choisir, etc., etc., voire se choisir soi-même sans cesse. Donc, alors, c'est ça qu'elle dit. Et lorsqu'elle dit le donné, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut faire l'éloge de ce qui, dans le donné, est malheureux, bien entendu. Ça peut aller parfaitement de pair avec ça. Mais si on ne commence pas par consentir à se donner, eh bien, on ne peut pas penser sa vie comme si nous en étions
les maîtres.
Les maîtres absolus. Et on va quand même très, très loin dans ce sens ici. C'est comme si nous voulions nous donner la vie à nous-mêmes.
C'est-à-dire, vous pensez à toutes les questions, toute la procréation médicalement
par exemple,
assistée.
Oui. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les couples à avoir des enfants s'ils ne le peuvent pas. Ce n'est pas mon propos. Mais si vous voulez, il y a quand même cette idée que c'est moi qui décide, c'est moi qui décide. Or, c'est tout à fait faux. Et ce qu'Hannah Arendt qui disait par cette phrase-là, c'est qu'il y a un donné pour lequel nous pouvons dire merci, parce que c'est aussi à partir de lui que nous pouvons grandir, que nous pouvons le modifier, que nous pouvons espérer faire de grandes choses, et non pas en le niant et en se pensant soi-même être la source de notre vie, c'est pas nous.
Fabrice Midal.
Ce qui est passionnant, disons, dans mon langage, c'est que ce n'est pas par la volonté que je peux réussir. Et nous vivons dans l'illusion que par volonté, je pourrais tout faire. Mais ce rapport aux données, c'est un rapport d'écoute. Et au fond, le rapport à soi, ce n'est pas un rapport de volonté, mais c'est un rapport d'écoute. Mais c'est tout bête. Si vous n'arrivez pas à dormir, ce n'est pas en disant « je veux réussir à dormir » que vous allez réussir à dormir. C'est en apprenant à écouter la situation. Peut-être que votre corps, lui, veut dormir, mais c'est à force de vouloir dormir que vous empêchez votre corps de dormir. Donc ce qui est intéressant, c'est de sortir de cette illusion très fondamentale que nous avons, que par la volonté, je pourrais tout faire, comme si je pouvais m'instrumentaliser moi-même pour réussir à potentialiser ce que je suis. Non. Il faut apprendre ce que disait très bien Madame Chalier dans le fait d'entrer en rapport aux données. Et c'est ça, quand je parle des cinq portes, c'est quel est le donné de, et le désir, ce qui m'habite, c'est pas moi qui le décide. Pardon, qu'est-ce que je veux ? C'est pas moi qui décide ce que je veux au fond de moi. Je suis obligé de le discerner, de l'écouter. Quand un jeune cherche à savoir qu'est-ce qu'il va vouloir faire, moi, je trouve toujours ça absurde quand on dit à quelqu'un « qu'est-ce que tu veux faire ?» Il ne peut pas le savoir en se regardant. C'est en faisant des choses, en vivant des expériences, que peu à peu, il découvre quel est le désir qui l'habite, mais qui est comme un donné. On ne peut pas décider soi-même qu'est-ce qu'on va aimer. On est obligé d'apprendre à écouter. Et ce travail d'écoute, voilà, c'est ça que je trouve passionnant et qui, pour moi... C'était ça la méditation et c'était ça les cinq portes, c'est apprendre à se poser pour apprendre à écouter le donné qui va pouvoir orienter notre existence. Et on voit bien comment la volonté débouche sur le burn-out, comment la volonté débouche sur l'impossibilité. Ou quelqu'un qui est angoissé, secoue-toi et ça ira mieux. Ou quelqu'un qui est déprimé, t'as qu'à sortir et t'ira mieux. Comme si la volonté allait aider quelqu'un. Non, c'est pas une question de volonté. C'est une question de rencontre, c'est une question d'écoute, de quelque chose qui est en nous que nous ne savons pas. Et au fond, il y a une altérité au cœur de nous-mêmes qui est quand même abyssale. Et la rencontrer, c'est vraiment, c'est ça, au fond, la gratitude, le don et qui ouvre la porte. Et quand je parle des cinq portes, alors peut-être il faut dire que ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Ça vient de la tradition tibétaine. On retrouve ça dans la pensée chinoise avec les cinq éléments. On retrouve ça de manière tout à fait étrange chez les Indiens d'Amérique. Et Jung, on disait que c'était une des plus grandes...
Il était fasciné par cela, oui.
Oui, il disait que c'est une des plus fines descriptions de la psyché humaine parce que ce n'est pas monolithique, c'est dynamique. Vous voyez, ce n'est pas comme « Ah oui, vous êtes telle qualité, donc c'est fermé. » Là, on est tous les cinq portes, on en a une plus profonde, mais elles sont tout à fait en mouvement. Elles sont une porte, par exemple, si vous êtes porte verte, le désir d'agir, ben, vous risquez d'être pris dans l'inquiétude, le speed ou le fait de ne pas arriver à faire des choses parce que c'est dynamique, c'est un mouvement dynamique et pas quelque chose de statique.
Nous terminerons donc sur ces cinq portes, hein, Fabrice Midal. Donc le titre de votre livre publié chez Flammarion, La gratitude, si je retiens Catherine Chalier, ben c'est la forme suprême en quelque sorte. Hein, du sentiment, enfin ça fait partie des formes suprêmes des sentiments humains, non ?
Ah je pense, oui. Si nous perdons la gratitude, nous perdons vraiment beaucoup.
Alors, je conseille de lire votre livre, donc « Découvrir la gratitude au risque de l'asymétrie » et c'est publié chez Bayard. Merci à vous deux.
Merci infiniment.
Merci à vous, madame.
Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.